Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Pourquoi le logement devient de plus en plus cher au Mali? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir. L'accès à un habitat au Mali devient de plus en plus difficile. Les prix des maisons sont aussi élevés. Manque de réglementation du secteur immobilier. Comment renverser cette tendance? Où en est-on avec le décret présidentiel obtenu en 2015 par rapport à l'usage d'habitation? Le Grand Dialogue de Studio Tamani pose donc le débat avec ses invité, Mahamadou Welekem, directeur national adjoint de l'urbanisme et de l'habitat au téléphone, Dr Mohamed Kassoum Djiré, enseignant-chercheur à l'université de Bamako, et Abdrahaman Kunta, secrétaire général de l'ordre des urbanistes du Mali. Je suis Mirana Kilo Maïga, invité, auditeur, téléspectateur, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Mahamadou Welekem, vous êtes le directeur national adjoint de l'urbanisme au Mali et de l'habitat. Comment se porte aujourd'hui le secteur de location d'habitation au Mali?
Merci, monsieur Maïga. On peut dire qu'aujourd'hui, le secteur de location au Mali se porte acceptable. On peut dire qu'il se porte de façon acceptable.
Comment?
J'ai dit que la location au Mali se porte de façon acceptable aujourd'hui.
Acceptable comment?
Allô?
Acceptable comment?
Là.
Vous avez dit le secteur se porte, c'est acceptable. Le secteur est acceptable comment?
Bon, je le dis parce que nous voyons qu'aujourd'hui, avec le projet de reconstruction des logements sociaux, il y a le maximum de Maliens aujourd'hui commencent à avoir un chez-soi et à des prix raisonnables.
Quand vous dites le maximum de Maliens, on peut estimer à combien selon vous?
Le programme de construction des logements sociaux, quand ça a démarré depuis le régime juste après les événements, régime de Alpha Omar Konaré jusqu'à le président de fin personnel ATT et le président Ibrahim Boubacar. Il y a eu près de 20 000 logements sociaux qui ont été réalisés. Donc, et surtout sur le territoire du Mali, il y a eu plusieurs programmes. Commencé par le programme depuis la CEMA, c'était au temps du président Modibo Keïta, et après au temps de Moussa, toujours avec la société d'équipement du Mali, où il y a eu les premiers logements qui ont été réalisés, et pour qui connaissent surtout Badlabougou, avec le programme de la CEMA, jusque le programme de la Cité de la Solidarité vers Sotiba. Et le programme des 1008 logements, puis vers Tabakoro, où il y a eu la remise officielle des logements sociaux de 3743 logements, et les 1800 également, où la remise officielle a été faite il y a juste 2 semaines par le président de la transition. Et puis, dans les différentes régions du Mali, où le programme était étalé dans les différentes régions de Kay à Kidal, où l'État a eu à réaliser des logements sociaux à des prix très abordables pour la population, où le slogan était « Un Malien, un toit ». Donc l'État, dans ce cadre-là, a réalisé beaucoup de logements, comme je l'ai dit au début.
Avant d'arriver au logement, comme vous le dites, avec 20 000 logements réalisés par l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, aujourd'hui, le secteur de location dans lequel la majorité des populations se trouve se porte comment?
Le Malien, aujourd'hui, de plus en plus, commencent à construire des appartements, ce qui n'était pas dans le temps, où chacun voulait avoir son chez-soi. Mais aujourd'hui, nous constatons à travers la ville que des particuliers quand même se donnent à des projets de construction des petits appartements où sur des parcelles, vous pouvez avoir 3 à 4 appartements pour qu'ils mettent en location pour les citoyens. Et c'est pourquoi j'ai dit que le logement aujourd'hui, on dit que dans l'ensemble, est acceptable comparativement aux autres années. Maintenant, ça, je ne rentre pas dans le cadre des détails des prix et autres. Mais en termes de logement, en plus des logements que l'État réalise, il y a beaucoup de particuliers également qui font des projets d'appartements qui mettent en location.
Docteur Adjiri, le directeur national adjoint estime que le logement aujourd'hui est acceptable. Comment est-ce que vous partagez cet avis?
Bon, merci beaucoup. En tant que directeur, oui, s'il dit que c'est acceptable, c'est pour ne pas dire que c'est inacceptable, quoi. Parce que moi, je trouve que la problématique du logement au Mali est inacceptable. Et qu'au Mali, les populations souffrent du manque de loyer. Et ça engendre encore plus de problèmes parce que le rêve de chaque individu, au moins après ta carrière professionnelle, c'est d'avoir un toit. Je remercie le gouvernement à travers la stratégie nationale de logement depuis 2005 qui avait une idée, c'est-à-dire comment améliorer les logements, parce que le logement social, c'est surtout à Bamako ça pose problème. Parce que c'est à Bamako qu'il y a la spéculation foncière. Parce que tous ces problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est dit aussi aux gouvernants, c'est dit à la spéculation foncière, c'est dit au manque de volonté politique pour mettre en œuvre nos textes. Je vous l'avoue, je me suis amusé à lire sur les textes qui régissent notre système national d'habitat, d'urbanisme, de domaine, mais le Mali a des textes presque, si tu regardes dans la sous-région, le Mali est paradigme dans les textes. Mais c'est l'application des textes qui pose problème. Là où je dis que c'est inacceptable, quand on voit les SMIC des salaires au Mali qui est 40 000, ou bien quand tu vois les cadres supérieurs, le salaire est connu, pour ne pas le dire comme ça, et qu'aujourd'hui, pour avoir une petite maison, une villa, 3 chambres, il faut payer jusqu'à 150 000 à 200 000. Donc c'est là que la problématique se pose. Deuxième chose, pour avoir un terrain aujourd'hui à Bamako, mais ce n'est pas, c'est-à-dire, accessible aux Maliens lambda, et même le cadre supérieur malien, à forte raison le Malien. Voilà les problèmes que les Maliens vivent. Donc, il faudra faire des réformes pour envisager, comme en 2015 dans la stratégie du logement, en 2005 dans la stratégie nationale du logement, il était prévisible de créer au moins 120 000 à 130 000 logements sociaux sur un espace donné. Mais aujourd'hui, nous sommes à 10 ans, 15 ans de cela. Combien de maisons ont été créées? Donc, aujourd'hui, on parle d'un programme national de logement social. Ce n'est pas un programme de logement, en fait. C'est un programme de logement-vente. Il faudra que les Maliens voient ça. Parce que, je le dis, parce que ceux qui n'ont pas les moyens de payer les cautions n'ont pas accès à ça, sont exclus. Le Malien lambda pour lequel on doit tout faire pour qu'il ait une maison n'a pas de maison. Certains cadres supérieurs qui cherchent même ces maisons n'ont pas droit à ces maisons. On voit aussi que quand on part voir ces maisons, je parle sous le contrôle de monsieur le directeur adjoint, est-ce que vous vous rendez compte, à l'heure de remettre ces maisons, dans quelles conditions les gens rentrent dans ces maisons? Des maisons sans toilettes, où les toilettes ne fonctionnent pas. C'est-à-dire aujourd'hui, déjà les Maliens sont préparés. Dès que tu as le logement social, il faut préparer 5 à 6 millions pour refaire la maison, pour que tu puisses cohabiter dans cette... C'est injuste, c'est pas normal. Cela n'est pas la vision politique du gouvernement malien pour donner aux Maliens des logements dignes. Aujourd'hui, nous regardons au Gabon, nous suivons la télé, nous voyons leur programme de logement social, à Dakar tout près et au Rwanda. Mais nous ne sommes pas dans le même monde. Ou bien le Malien n'a pas droit à un logement avec toutes les conditions, après vérification que tu dois avoir accès. Surtout que ce n'est pas un logement socialement, comme les dit les textes depuis du jargon, c'est pour des personnes démunies qui n'ont pas le moyen et que l'État les met au moins sous toit, sous abri. Or, ce n'est pas ce cas au Mali. Tu payes la maison. Ça fait 31 millions les F4. Imagine, tu payes une maison à 31 millions durant des vingtaines d'années et en dehors de ça, à l'heure de rentrer dans la maison, tu dois dépenser 5 à 6 millions pour refaire les toilettes, la culture, la peinture. Il n'y a pas de route. Donc, voilà les problématiques que les Maliens lambda souffrent, que les Maliens même qui prennent le logement. Mais maintenant, à cela ne tient, monsieur le directeur, nous remercions le gouvernement. Parce qu'au moins, ils ont cette volonté.
Mais si nous revenons par rapport au loyer dans lequel on se trouve aujourd'hui, qu'est-ce qui explique, selon vous, cette cherté de loyer?
La charte de loyer est directement proportionnelle et au gain. C'est-à-dire que les Maliens, le SMIC, les salaires et la spéculation foncière. Parce que ceux qui ont les loyers, quand ils viennent voir les immobiliers au Mali, c'est qui? La majorité sont des administrateurs. Et de deux, ce qui fait que... Parce que la croissance démographique au Mali est partie de 20 à 25 ans. 25 000 par an, par habitant. Donc ça justifie. Lors des indépendances, il a parlé, il y avait moins d'un million d'habitants à Bamako. Aujourd'hui, nous sommes à 3 millions, presque 4 millions d'habitants. Et pour dire encore, la planification, ça s'est fait dans le temps. Au Mali, généralement, l'habitat, le domaine, l'urbanisme ne travaillent pas de forme systématique. C'est-à-dire qu'ils doivent organiser un système intégré à travers lequel tous travaillent ensemble. D'accord. Moi, je pense que c'est la seule manière de prévenir tous ces problèmes d'habitat que nous avons et de prévoir des logements hors de Bamako.
D'accord. Monsieur Kunta, vous êtes le secrétaire général de l'Ordre des urbanistes du Mali. Le directeur national adjoint estime que la problématique de logement est acceptable. Mohamed Kassoum Diré estime qu'il n'est pas inacceptable et que le problème se situe au niveau de la spéculation foncière. Qu'en dites-vous par rapport à ça?
Merci beaucoup. Je remercie Studio Tamani pour cette initiative autour de ce sujet qui est très important et très capital pour l'ensemble des Maliens. Je veux d'abord qu'on éclaircisse une chose, parce que je vois qu'à chaque fois qu'on nous appelle pour parler des problèmes relatifs aux fonciers, aux logements et tout, j'ai l'impression que toutes les interventions tournent autour de Bamako. Le Mali ne se limite pas à Bamako, il faut qu'on comprenne cela. Mais je suis conscient quand même qu'il y a trop de pression sur Bamako. Et il y a trop de demandes en termes de logements, en termes de fonciers à Bamako. C'est pourquoi il faut remonter un tout petit peu à une autre échelle, un peu supérieure à l'échelle des logements, et voir nos documents de planification spatiale en termes de schéma national d'aménagement du territoire, les schémas régionaux d'aménagement du territoire, parce qu'il faut voir pourquoi tout le monde vient à Bamako, pourquoi tout le monde veut se faire loger à Bamako. C'est parce que nous avons concentré l'ensemble de nos activités et tout à Bamako. La déconcentration des activités économiques et administratives n'est pas totalement réelle pour le Mali jusqu'à présent. Je parle sous le contrôle du docteur Diré. Et pour les universités, en dehors de l'université de Ségou, dans quelle autre région il y a une université publique au Mali? Je ne pense pas, si ce n'est pas Ségou, ça n'existe nulle part. Donc, quand vous êtes à Gao, vous êtes à Kaye pour faire le passeport, vous venez à Bamako. Vous finissez l'université ici à Bamako pour avoir un emploi. C'est beaucoup plus facile de l'avoir à Bamako que de retourner dans votre village à Ouattaguna ou à Oussoubi-Djandjan pour chercher de l'emploi là-bas. Donc, il y a lieu vraiment de voir pourquoi les gens se déplacent, pourquoi tout le monde veut venir à Bamako. C'est pourquoi quand vous avez demandé d'aller réaliser des logements ailleurs, on ne peut pas réaliser des logements sans des activités économiques. Loger les gens loin de leur activité économique, c'est de leur créer des problèmes. C'est ce que nous constatons aujourd'hui, même pour les logements de Tabakoro, ce qu'on est en train de réaliser à Niamana et autres, c'est des gens très souvent qui franchissent le fleuve Niger pour venir au niveau de la rive gauche et travailler. En 2012-2013, lors de la transition, j'ai croisé des gens au niveau du département chargé de l'urbanisme qui avaient des demandes de résiliation de leur contrat de logement social. Parce qu'ils pensaient que ça leur coûtait beaucoup plus cher que de prendre un appartement ou une villa en location près de leur lieu de travail. Donc il y a beaucoup d'aspects qui rentrent dans ce jeu-là. Et malgré tout ça, la spéculation foncière joue réellement sur le coût des logements et même sur la disponibilité des logements au niveau de Bamako ou ailleurs. Parce que je dis, on est en train de mettre l'accent sur Bamako parce que le problème...
C'est sur l'ensemble du pays.
C'est sur l'ensemble, voilà, sur l'ensemble du pays. Mais l'ensemble du pays, le problème du logement à Bamako, ce n'est pas le même problème à Tombouctou ou à Nioro du Sahel, ce n'est pas la même chose. Donc la pression qui est sur Bamako, ce n'est pas la même pression ailleurs. Donc il faut essayer de déconcentrer la pression aussi sur Bamako. Et pour le faire, il faut déconcentrer les activités économiques, administratives et tout de Bamako pour que dans les autres régions, que les autres villes puissent être créatrices de richesses et d'économie et d'emploi. Tant que nos villes ne créent pas d'économie et de richesses, ça va pousser les gens à quitter ces villes-là. Nos villes sont en train de se vider. Les villes vont se vider et tout le monde va venir vers la richesse. Et la richesse du Mali aujourd'hui est concentrée à Bamako. Il faut trouver une solution à cela. Et le coût du loyer, on en a parlé parce que quand on dit vraiment que l'état du logement actuel au Mali, de façon générale, moi je dirais que ce n'est pas du tout acceptable. On peut faire mieux. On peut faire mieux, on peut proposer mieux. Les logements qu'on l'État...
On peut faire mieux, on peut proposer. Qui est on c'est qui?
On c'est l'État. La décision doit venir de l'État, mais pas que de l'État. Parce qu'il y a d'autres acteurs aussi qui accompagnent l'État. L'État a accordé des avantages aux promoteurs immobiliers. C'est-à-dire, au Mali, on ne doit pas attendre aussi que l'État propose tout et qu'il nous amène un programme tout fini et nous appeler en tant que promoteurs, architectes, urbanistes pour dire « voilà ce que vous devez faire, je vous paye tant ». Mais il faut que les gens réfléchissent et qu'ils proposent eux aussi à l'État. Donc nous avons constaté, M. Diré vient de le dire, aujourd'hui, les types de maisons qui sont proposées dans les logements sociaux ne répondent pas aux besoins des Maliens. La quasi-totalité des logements sociaux font objet de transformation aujourd'hui parce que ce qui est proposé ne satisfait pas la personne qui rentre là-dedans. La personne est obligée d'améliorer et d'apporter d'autres commodités. Et comme il a dit, très souvent, c'est des maisons inachevées. Parce que quand je rentre dans une maison, je ne trouve pas de matériel électrique. Je trouve que les sanitaires ne fonctionnent pas. Je dis que c'est une maison inachevée. Donc, si c'est le cas, franchement, il y a lieu vraiment de revoir notre politique nationale même du logement, de l'habitat, et de revoir aussi les types de logements que l'État est en train de produire et mettre à la disposition des gens. Donc, pour revenir un peu à la spéculation foncière, je dis que ça aussi, c'est surtout à Bamako. La pression foncière, c'est surtout à Bamako et dans certaines grandes villes ou capitales régionales du Mali. Donc, quand les gens achètent le foncier très cher, ils achètent les matériaux de construction coûtent excessivement cher au Mali. Le ciment, malgré qu'actuellement nous avons plusieurs usines de cimenterie, mais la tonne du ciment qui est fabriquée au Mali ici coûte le même montant que ceux qui viennent de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal. Donc il y a lieu vraiment de revoir tout ça pour que les gens puissent accéder aux matériaux de construction à des coûts raisonnables, parce que vous allez construire, quelqu'un qui construit une maison aujourd'hui entre 50 et 100 millions, il met en location, il n'a pas plus de 150 000 francs par mois. Donc, il a besoin de plusieurs années en ce moment pour amortir son investissement, ce qui pousse certains investisseurs à rehausser un peu le prix du loyer. Donc, c'est ce qui rend la chose inadmissible. Donc, il faut que l'État prenne ses responsabilités et fasse des propositions concrètes et prenne des mesures concrètes et essaye d'appliquer aussi à la règle les textes qui ont été adoptés.
Mahamadou Aouelegem, vous venez d'entendre les deux intervenants. Il y a d'abord Mohamed Kassoum Diré, qui est enseignant à l'Université de Bamako, qui estime que les conditions dans lesquelles les gens rentrent dans les logements ne sont pas acceptables. Il estime que pour avoir un logement social, il faut d'abord payer 5 à 6 millions de francs CFA. Et également Kunta, qui parle de qu'il faut revoir la politique nationale du foncier et revoir également la déconcentration. Concentration. Que dites-vous? Est-ce qu'il y a une politique par rapport à ça?
Merci, M. Maïga.
Vous êtes là?
Oui.
Allez-y.
M. Maïga?
Allez-y.
Voilà, donc pour rebondir sur mes deux collègues débatteurs, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, comme l'a dit Kunta d'ailleurs, qu'il ne faut pas limiter la problématique de logement au niveau de Bamako seulement. Bamako représente 15% de la population, c'est 3 millions sur 20 millions. Vous partez à Ségou, dans les mêmes conditions de logement, vous n'avez pas les mêmes problèmes. Vous partez à Sikasso, ce n'est pas le cas. Vous partez dans d'autres régions, ce n'est pas le cas. Donc, il ne faudrait pas résumer seulement cette problématique de logement.
Là où vous estimez qu'il y a le problème, qu'est-ce que l'État est en train de faire pour soulager ces populations-là qui sont dans ces difficultés-là?
Je vous dis, quand vous suivez l'évolution des choses, les premiers logements qui ont été donnés en son temps, c'était des F2. Et chaque année, il y a une innovation, une amélioration dans cette politique de logement pour satisfaire au maximum la population. Les toilettes, dont on a fait question, il n'y a pas eu de construction de logements sans toilettes. Initialement, c'était des toilettes dans certains types de plans où on avait proposé des toilettes à l'intérieur. Mais après, il y a d'autres variantes où il y a des toilettes à l'extérieur. Ça, c'est en fonction des différents types de plans présentés pour les logements. On est allé des F2, c'est-à-dire des deux pièces avec véranda et magasin, à des F3, à des F4, et même aujourd'hui des F5.
Les 35 millions 500. Des offres inachevées?
Non, ce n'est pas des bâtiments inachevés. C'est-à-dire que c'est les bâtiments qui sont construits et réceptionnés. C'est comme ça, souvent, ça prend du temps avant l'attribution et c'est les actes de vandalisme qui sont constatés.
Mais à Koulikoro, il y a plusieurs années que des logements ont été construits mais qui ne sont pas encore habités. Qu'est-ce qui explique cela?
Mais ce n'est pas des bâtiments qui ont été donnés. Ce n'est pas donné pour le moment.
Mais ils ont été construits pourquoi? C'est pour des personnes?
Ça a été construit pour être donné. Mais aujourd'hui, compte tenu des situations que vous connaissez tous, des situations financières auxquelles le pays vit, donc c'est des bâtiments qui ont été construits et à certains endroits, c'est les viabilisations qui restent. Ou c'est des travaux peut-être qui ne sont pas achevés avec les entreprises qui ont eu les travaux. Mais l'État ne donne jamais un bâtiment qui n'est pas achevé, où il n'y a pas l'eau, l'électricité. Donc c'est lorsque ces conditions sont achevées que les bâtiments sont remis aux différents bénéficiaires. Et pour dire que le logement, ça ne se limite pas seulement aux logements sociaux que l'État est en train de réaliser. Et comprenez que tout ce qu'on est en train de donner comme difficulté, comprenez que l'urbanisme, de façon générale, est transversal. Quand on parle d'urbanisme, il y a plusieurs secteurs qui sont mis en jeu pour pouvoir donner une satisfaction à tout ce que nous sommes en train de dire. L'urbanisme, ce n'est pas seulement le logement. Il y a le volet électricité, il y a la mobilité qui est mise en profit, il y a les différentes activités socio-professionnelles qui sont là. Et c'est le fait que tout le monde est concentré et que toutes les activités sont menées à un endroit, et c'est ce qui rend souvent le coût de location difficile. Parce qu'aujourd'hui, le centre-ville aujourd'hui, où la quasi-totalité des activités sont concentrées, et pour rapprocher le lieu de travail, les services, les lieux d'activité au logement, et si tout le monde veut venir loger au centre-ville, il va de soi que le coût va être élevé. Sinon, si vous partez dans les périphéries, ce n'est pas la même chose. Et donc, ça nous amène également à orienter les activités, à créer d'autres pôles d'activité qui n'est pas le centre-ville. Vous constatez bien que le matin, pratiquement 80% des structures des services étatiques sont au niveau de la rive gauche. Et donc, tous ceux qui sont dans les quartiers commune 6, commune 5, ils transitent tous vers ce côté. Et si réellement les activités étaient diversifiées dans les autres pôles, ça va éviter à ce que tout le monde soit là et que le rapprochement du service qui est sollicité par tout le monde soit diversifié. Et là, il n'y a même pas de doute que le coût de la location va baisser. Et le coût est élevé, il faudra tenir compte également des matériaux qui entrent en ligne de jeu dans la construction.
Mais la problématique de location au Mali, est-ce que l'État a le contrôle des maisons mises à location?
L'État n'a pas un contrôle, s'il faut parler en toute réalité.
Pourquoi?
L'État n'a pas un contrôle maîtrisé sur tout ce qui se passe.
Pourquoi?
Bon, parce que les textes sont là, effectivement, les textes sont là, sont élaborés. Et l'application, ce n'est pas un secret. L'application, ça pose souvent des problèmes. Et ça, je ne pense pas que je ne dirais pas...
Donc l'État ne pourrait pas appliquer ses propres textes?
L'État est en train de voir les voies et moyens pour les appliquer. Et comprenez que c'est une problématique qui est là où l'État fait de son mieux à travers tout ce qu'il y a comme disposition à prendre pour pouvoir être à l'application de ces textes.
Monsieur Diré, oui. Tout à l'heure, vous avez évoqué la problématique des textes et le directeur national adjoint parle également de textes que l'État serait incapable et dans l'incapacité de faire face à ses propres textes. Comment peut-on expliquer cela?
Bon, c'est là la question. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on parle de refondation de l'homme malien. Le directeur l'a dit. Il dit que ce n'est pas que l'État est incapable. Mais l'État est en train de tout aménager pour changer les choses. Vous savez, ce qui est plus important pour l'homme, pour qu'un homme vive dignement, il faut avoir accès à un toit. Ça parmi les priorités des priorités. Parce que si tu n'as pas de toit, tu ne peux pas travailler tranquillement. Si tu n'as pas de toit, tu es susceptible à la corruption. Si tu n'as pas de toi...
Ça joue à la psychologie.
Ça joue psychologiquement. C'est pour cela que je l'amène sur le plan santé. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de Maliens, même en conduisant, sont stressés. Parce que la dignité d'un homme, c'est au moins avoir là où tu dors. Mais un homme qui n'a pas là où il dort, un homme qui n'a pas là où se soigner, un homme qui n'a pas là où étudier, mais cet homme ne vit pas. Cause pour laquelle, aujourd'hui, les Maliens sont dans une dynamique de refonder leurs textes, mais au centre de ça, la dimension humaine occupe un rôle important. Si vous voyez, le président de la transition l'a dit, c'est l'homme malien qu'il faut refaire. Mais cela ne peut pas se faire d'un jour à l'autre. Cela va se faire graduellement. Tous les problèmes, je me rappelle, une tante m'a dit à la SEMA qu'elle, elle est enseignante. Avant, c'est les enseignants qu'on forçait à avoir des terrains. Elle était à la SEMA, qui est aujourd'hui un quartier chic de Bamako. Mais leur terrain, combien ils ont eu? C'est 20 000, c'est 15 000. Mais la démographie a tellement augmenté. Aujourd'hui, il y a des partenaires qui sont là au Mali. Aujourd'hui, il y a des étrangers qui sont là. À Gao, par exemple, là où j'ai étudié. Avant, tu logeais à 10 000. Mais aujourd'hui, à Gao, si tu ne payes pas 100 000, 150 000, tu ne loges pas. Parce qu'il y a une migration, il y a une émigration des partenaires. Des autres pays qui sont là. Par exemple, quand tu pars dans d'autres pays, je te donne l'exemple de l'Amérique latine où j'ai beaucoup étudié, le logement social, c'est un droit du peuple. C'est un programme gouvernemental. C'est-à-dire, ce n'est pas que la population va payer une somme, non. C'est une maison que l'État va faire et l'État va avoir les critères et l'État va vous remettre cette maison pour vous rendre plus digne. Aujourd'hui, nous avons des réfugiés internes au Mali, qu'on dit déplacés internes. Qui sont où? Ils sont au Garbal, là où il y a les animaux. Qui sont où? Qui sont vers Kalabankoro, là où l'eau passe. Mais ça, c'est pas digne. Je sais que l'État est en train de faire beaucoup d'efforts pour ça, mais voilà des images que nous devrions améliorer. Dans la construction des logements sociaux, il faut penser faire des grandes maisons d'accueil en cas de danger. Par exemple, vers les Amériques, il y a les ouragans. Donc déjà, il y a des choses qui sont préfabriquées en cas d'afflux massif. Mais ici, l'autre jour, il y a eu ce qu'on appelle les inondations lors de la saison pluvieuse. Mais il y a eu combien de morts? Il y a eu combien de déplacés? Mais ils sont partis où? On est obligé d'envoyer des grandes écoles pour mettre... Donc voilà pourquoi le collègue a dit à Djawiekoui, Kunta, non?
Oui, oui.
Voilà, il dit, c'est-à-dire il faut que les domaines, l'urbanisme et de façon transversale puissent travailler ensemble pour prédire, c'est-à-dire préparer le Mali nouveau dont on parle. J'étais l'autre jour, je partais à Ségou.
Vous sortez de Bamako à 50 km de Bamako, mais c'est de l'espace vert qui est partout. Mais pourquoi ne pas créer une nouvelle ville de Bamako? Ça, ça fait partie de l'urbanisme. C'est parce que c'est l'urbanisme qui va prévoir que dans cette nouvelle ville, tu auras tout ce qu'il faut. Et les gens auront accès à l'éducation, à la santé, à des maisons. Un travailleur, on peut faire un programme national au lieu de dire des logements sociaux. On peut faciliter quoi? L'accession des terrains aux travailleurs. Si le terrain est accessible, les ciments. Il y a des pays où le ciment coûte 2000 francs. Pourquoi au Mali, le ciment va coûter jusqu'à 6000 francs? Mais si tu facilites le ciment, tu facilites le fer, tu facilites l'accès, c'est comme si tu es en train de donner des logements aux gens. Mais pourquoi l'État s'engage à construire des maisons où les personnes doivent payer à peu près 21 à 31 millions sur un espace, un enseignant que tu lui coupes tout ça et que cette personne aussi soit dans cette maison et qu'il n'ait pas de conditions de viabilité? Cause pour laquelle les gens sont obligés de construire des ATTBOU qui sont transformés en anarchie. Donc voilà, moi je pense que aujourd'hui nous sommes à la croisée des chemins. Les Maliens doivent refonder leur système de gouvernance, avoir des institutions vraiment qui respectent les lois. Parce que lorsqu'on respecte la loi, il n'y a pas de problème. Les populations vont se voir dans leurs dirigeants. Et c'est la seule manière de refaire ce Mali nouveau dont on pense, où les Maliens auront un toit.
Kunta, est-ce que la problématique de location n'est-elle pas liée également à l'attribution des terrains à usage d'habitation?
Bon, quand on dit l'attribution des terrains à usage d'habitation, je ne comprends pas exactement ce que vous voulez dire par là.
Les terrains vides à acheter?
Bon, au fait, les terrains vides, ça peut être lié à ça, mais il faut tout simplement trouver des moyens pour arrêter la spéculation foncière. Parce que quand, par exemple, l'État aussi fait des facilités à un promoteur immobilier qui bénéficie de plusieurs dizaines d'hectares, il viabilise ou il fait le lotissement sans même une grande viabilisation. Il se permet de garder les titres individuels avec lui et ne les met pas au marché pour que ceux qui en ont réellement besoin puissent avoir accès à cela. Ça peut rendre vraiment l'accès au logement encore plus difficile. Donc, et aujourd'hui, je sais que, comme M. Djiré vient de le dire, il y a beaucoup de textes qui ne sont pas encore appliqués. Il y a des textes qui régissent la profession du promoteur immobilier. Il y a des textes aussi qui sont là, en tout cas pour essayer de cadrer un peu ceux qui font des lotissements et tout ça, parce que tout le monde n'est pas habilité à produire des parcelles à usage d'habitation. Tout le monde n'est pas habilité à le faire. Donc, on a vu des lotissements irréguliers qui poussent un peu partout. Et donc, des gens qui ont des armoires remplies par les bulletins, les lettres d'attribution et des parcelles à usage d'habitation. Mais sur les documents, on va voir que c'est à usage agro-pastoral attribué par des représentants de l'État sur des parcelles de 15 sur 20. Donc, il y a vraiment beaucoup de problèmes à ce niveau. Mais la semaine passée seulement, il y a la nouvelle loi domaniale et foncière qui est passé. Je sais quand même que dans cette nouvelle loi, il y a beaucoup de problèmes qui seront résolus.
Comment est-il possible que l'État n'arrive pas à avoir la main sur les locations au Mali?
Au fait, M. Maïga, nous sommes entre Maliens ici. Hein, il faut reconnaître que l'État ne maîtrisait pas beaucoup de choses dans ce pays. Ce n'est pas seulement le logement. Donc, il y a beaucoup de choses qui échappaient à l'État. Donc, et comme M. Djiré l'a dit, il y a lieu vraiment d'avoir un nouveau Malien pour qu'on puisse avoir un Mali courant. Donc, sans cela, franchement, la maîtrise va être très difficile. Maintenant, avec, en tout cas, l'espoir qui a été suscité aux Maliens, et avec, il est temps vraiment que tout le monde se regarde au miroir afin qu'on puisse vraiment revoir peut-être nos textes et pour que ça puisse être vraiment adapté à nos réalités, nos cultures, afin que ça puisse être mieux appliqué. Ça ne sert à rien d'aller faire aussi des copier-coller des textes des autres pays pour l'amener ici et que ça ne soit pas appliqué. Donc nous avons les meilleurs textes, en tout cas de la sous-région. D'autres personnes viennent s'inspirer de nos textes ici, mais qui vont mieux l'appliquer chez eux et font mieux que nous. Donc il est vraiment temps qu'on procède à l'application des textes réglementaires.
Mahamadou Awelegem, les impôts sur les revenus fonciers IFR sont-ils versés par les propriétaires de maisons à location pour l'État?
Ces impôts, il faudra quand même vérifier cette, problématiques à d'autres structures qui ne viennent pas du ressort de l'urbanisme. Parce qu'il faut vraiment qu'on clarifie cette situation. Et les services de l'urbanisme sont différents des services des impôts ni des services des domaines.
Quels sont les services offerts par l'urbanisme, alors?
Voilà. Donc, voilà, si on avait commencé par là, l'urbanisme, notre mission, c'est la mise en œuvre de la politique nationale en matière de construction et d'habitat. Ça, c'est de façon générale. Et quand vous prenez l'urbanisme, en termes de définition, c'est l'aménagement d'une agglomération. Et là, cet aménagement fait intervenir plusieurs secteurs. Ça ne se limite pas seulement au secteur proprement dit, qui est l'urbanisme. Comme je le dis, ça fait intervenir l'aménagement des voies, des routes, qui ressort d'un autre département, qui est la direction, le département des infrastructures. Et le problème de l'assainissement dans ces agglomérations, c'est du ressort d'un autre département. Il y a le service de développement social. Il y a toute une structure, comme je l'ai dit au tout début, que l'urbanisme est transversal. Et c'est lorsqu'il y a l'action conjuguée de tous les secteurs que le Malien peut se voir heureux et très libre dans tout ce qu'il va entreprendre. Il y a le volet de l'éducation qui est là aujourd'hui. On va pas rentrer dans ces détails. Vous prenez d'autres secteurs, tels que l'énergie, la voirie. Dans tous les secteurs aujourd'hui, ce pays, il faut que je dise la vérité, il y a des progrès à faire.
D'accord.
Alors, à son niveau.
En 2015, il y a eu un décret présidentiel qui a été obtenu par rapport à l'usage d'habitation. Où en est-on avec ce décret?
Le décret, je l'ai dit au tout début que ce n'est pas les textes qui font défaut. Il y a eu plusieurs années où on a constaté tous ici qu'il y a eu des problèmes par rapport à la mise en œuvre de correcte de ces textes. Et aujourd'hui, pas seulement que c'est ce décret, mais il y a beaucoup de décrets, beaucoup de textes qui ont été pris où la mise en œuvre, la mise en application pose de sérieux problèmes et que tout le monde comprend très bien pourquoi ce n'est pas fait. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on va dire qu'aujourd'hui, voilà, il y a de tels problèmes et que c'est dû à un seul secteur. Mais les efforts sont quand même sont en train d'être mis en œuvre pour pouvoir réellement faire appliquer ces textes à hauteur de souhait.
Alors concrètement aujourd'hui, qu'est-ce qui est entrepris au niveau de la Direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat pour offrir un habitat décent pour chaque Malien?
Aujourd'hui, nous sommes dans un cadre de réforme avec la politique nationale de l'habitat. Et aujourd'hui, en ce qui concerne le problème de parcelles que tout le monde constate aujourd'hui à Bamako, où c'est des opérations irrégulières par X ou Y pour donner des parcelles à des gens, et l'urbanisme est lancé aujourd'hui à des dispositions qu'ils sont en train de prendre. Et c'est beaucoup avancé également pour une régularisation de ces opérations qui sont constatées afin de pouvoir freiner cette anarchie que nous constatons tous dans la gestion foncière. M. Koukta vient de le dire tout de suite avec la nouvelle loi domaniale où des dispositions pour l'application de cette loi vont permettre également à pouvoir lutter considérablement contre ces spéculations. Et l'État également est en train de mettre en place, si vous voyez aujourd'hui avec les NINA 4 qui sont là, c'est pour aller vers quoi? C'est pour pouvoir maîtriser l'occupation des parcelles, trouver, vérifier qui a quoi, qui fait quoi avec, et au finish, imposer des impôts sur ces parcelles pour éviter à ce qu'un individu puisse se retrouver avec 10, 20, 30, 40, 50 parcelles. Mais s'il sait qu'il doit payer des impôts après une identification claire et nette de tous ses patrimoines, et ça va amener les gens à ne pas chercher à se faire beaucoup de parcelles, puisque ces parcelles vont être encore plus chères pour toi si tu dois payer chaque année des impôts ou des redevances pour l'État.
Mais toutes ces dispositions-là vont prendre combien de temps pour que les Maliens puissent être au moins édifiés?
Bon, ces dispositions sont en cours. C'est en cours. Et aujourd'hui, comme on l'a dit au tout début, le Malien, de façon générale, entre guillemets, je vais m'excuser le terme, a besoin d'être, entre guillemets, formaté. Et à partir de là, ces textes sont là. L'application, en ce moment, ne posera pas de problème si réellement on est tous allés, on est tous prêts à respecter nos textes, et comme ça a été vraiment pris par les hautes autorités.
Monsieur, le défi de l'habitat peut-il être relevé par les autorités du Mali?
Oui, oui, comment non? C'est-à-dire, comme je l'ai dit, tout dépend de la volonté politique. Et pour avoir la volonté politique, il faut avoir une vision politique. Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas seulement les autorités, sinon les Maliens sont en train de...
Mais comment y parvenir?
Hein?
Comment y parvenir?
C'est-à-dire, pour y parvenir, ça dépend de hautes autorités. C'est-à-dire, le président de la transition, le président de la République dans le temps futur, si toutefois il a la volonté expresse de changer les choses, mais les choses ne peuvent pas se changer parce que, comme on l'a dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Aujourd'hui, nous voyons, si tu remarques, nos autorités sont dans une mouvance de faire changer les choses. Parce que tout ce problème d'habitat, de spéculation foncière prend sa source dans la corruption. On est d'accord. Dans l'injustice et l'impunité. Donc aujourd'hui, si on redonne aux Maliens ce qu'il leur faut, moi je pense que l'État peut bien défier ce problème cette problématique de l'habitat. Parce que tant qu'on ne résout pas cette problématique de l'habitat, ça va toujours créer des problèmes. Et chaque année qui passe, l'habitat va constituer un autre problème. Vous voyez, il y a 5 ans avant, les habitats ne coûtent pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et comme il l'a dit, le problème n'est pas seulement Bamako. Le problème, c'est dans toutes les régions et surtout les capitales régionaux et les capitales régionales. Donc sur ce, aujourd'hui, je pense qu'avec une vision politique, la volonté politique, les textes sont déjà là.
D'accord. À quelle solution faut-il pour l'accès à un habitat décent?
Pour ça, moi, je pense, comme je l'ai dit au tout début, il faut revoir notre politique nationale même de l'habitat, ça c'est un. De deux, il faut accorder plus d'importance aussi aux outils de planification spatiale de façon générale pour pouvoir quand même créer des pôles attractifs ailleurs qu'à Bamako qui vont permettre en tout cas aux gens d'aller chercher à se faire loger ailleurs qu'à Bamako pour réduire un peu la pression sur Bamako. Et en plus de cela aussi, il faut voir les types d'habitations que nous sommes en train de proposer. On peut aller au logement collectif, ainsi de suite, et voir d'autres types d'habitations qui peuvent être acceptées par nos populations.
Monsieur Mamadou Awelegem, un habitat décent pour chaque Malien est-il possible?
C'est possible avec la volonté des plus hautes autorités. Et vous savez, je viens juste la semaine passée, j'ai fait une visite en Égypte où il y a une volonté politique autour de là. Et en moins de 5 ans, l'État est arrivé à construire carrément des cités pour pouvoir abriter des milliers et des milliers de personnes. Donc c'est une volonté politique qu'il faudra mettre en œuvre pour pouvoir donner le maximum de logements aux Maliens.
Merci bien.
Et dans les cas des réformes, comme l'a dit, pour la gestion même de ces loyers, il y a juste une année où les textes réglementant les administrateurs de biens et les agents immobiliers de biens ont été adoptés. Et tout ça, ça permet de réglementer, de réguler ce problème de location que nous constatons. Et c'est les administrateurs de biens qui sont reconnus avec des titres bien définis, réglementés par l'État et qui vont exercer
Merci bien, Mahamadou Welegem. Merci beaucoup. Vivement un logement décent pour chaque Malien. Ainsi se referme ce grand dialogue qui est consacré pourquoi les logements deviennent de plus en plus chers au Mali. Nous étions avec Mahamadou Welegem, qui est directeur national adjoint de l'urbanisme et de l'habitat. Docteur Mohamed Kassoum Djiré, enseignant à l'université de Bamako. Abderrahmane Kunta, secrétaire général de l'Ordre de l'urbaniste du Mali. Je suis Imirana Akilou Maïga, à la régie vidéo. Peting Diara, Salim Diara a assuré la mise en onde. Cette émission, ce débat a été coordonné par Mouhamadou Touré. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba. Et de Wani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chien Nibiri.
Halou Mangi.
Chien Nibiri.